Il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Ah tiens donc. Voilà pourquoi il était nécessaire aux lecteurs de l'Épître d'être rassurés sur leur état de forme spirituelle. En effet, il semble qu'il y ait eu des personnes qui, auparavant, comptaient parmi les nôtres. Je pense qu'on peut entendre par là disciples de Christ, les disciples de Christ, mais qui se sont avérés avec le temps ne pas être des nôtres, et donc ne pas être disciples de Christ. Elles ont fait un bout de chemin avec nous, semblant même en accord avec nous, et peut-être même remplissant les deux premiers critères, l'obéissance et l'amour, mais finalement, elles nous ont quittés. Et Jean n'hésite pas à employer à leur égard le terme d'antichrist. Et déjà, par deux fois, Jean parle de la dernière heure dans ce verset 18. Et les deux fois pour dire que la dernière heure, c'est maintenant. Alors la notion de dernière heure a fait couler beaucoup d'encre parmi les commentateurs bibliques, mais la plupart d'entre eux s'accordent sur le fait qu'on peut aborder cette notion de dernière heure sous deux angles. Un premier angle, qui est un angle chronologique, et un deuxième angle, et c'est probablement sous cet angle-là que Jean l'aborde, un angle théologique. Le monde est en route vers sa dernière heure à laquelle Christ reviendra. Les chrétiens aspirent au retour de leur maître et s'y projettent déjà. Mais bien sûr, la dernière heure connaîtra elle-même sa dernière heure. Et ce n'est pas la même chose de dire « c'est la dernière heure », qui est une déclaration théologique, que d'indiquer l'heure chronologique à laquelle le Christ reviendra, chose contre laquelle nous avons été bien mis en garde de la part de Jésus lui-même. Je pense ici à cette parole de Winston Churchill. Après la première défaite allemande à Stalingrad, alors que tous se pavoisaient en espérant la fin prochaine de la guerre, il a rassuré, c'est votre assurance qu'il a dit, il a averti ses concitoyens, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin, tout au plus, est-ce la fin du commencement? Et c'est aussi ce qui caractérise toutes ces grandes crises, et celles que nous traversons actuellement avec le virus ne fait pas exception. On ne sait pas jusqu'où ça nous mène. On ne sait pas quand ça se terminera. Tout d'un coup, un jour, un signe nous donne un espoir, mais il est suivi d'une nouvelle et interminable attente. Là qui nous fait penser à la parabole des 10 jeunes filles qui rassemble deux éléments a priori contradictoires, paradoxaux. Un époux qui se fait attendre, mettant les patiences à l'épreuve, et puis, paradoxalement, qui surgit à un moment inattendu, le moment le plus inattendu. Seules celles qui se seront prémunies contre cette longue attente entreront avec l'époux dans la salle de noces. Et leur geste consistant à prendre de l'huile pour tenir toute la nuit en dit plus long que 1000 paroles. Nous nous sommes préparés pour l'attendre jusqu'à son arrivée, quelle que soit son heure. Si nos regards sont trop fixés sur la pendule, la chronologie, alors nous risquons de ne pas aller jusqu'au bout ou tout au moins d'aller d'espoir en déception. Par contre, s'ils sont fixés sur la fin, dans le sens de la finalité, l'objectif, l'accomplissement de la promesse, en l'occurrence, le retour du Christ, et c'est bien vrai aussi dans d'autres domaines, alors nous tiendrons, nous supporterons tout patiemment, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Nous en avons parlé la semaine dernière, et il ne peut se renier lui-même. Alors, tout au long de cette dernière heure, qui va vers sa dernière heure, Jean souligne que déjà, des antichrists apparaissent en attendant l'antichrist. Bon, la plupart des traductions ont fait une différence par une majuscule en cet antichrist-là par rapport aux antichrists qui sont à l'action aujourd'hui. Donc cet antichrist avec une majuscule qui se manifestera à la toute dernière heure, juste avant que le Christ ne revienne. Les antichrists sont au Christ ce que l'antigel est au gel, ou ce que l'antidouleur est à la douleur, c'est-à-dire opposé à l'action du Christ, comme l'antigel s'oppose à l'action du gel. Ce sont des opposants au Christ, des adversaires. Aucune opposition n'est aussi dévastatrice que celle qui vient de l'intérieur. Et le cancer est l'exemple type de l'adversaire qui se développe à l'intérieur du corps et à partir de cellules propres au corps. Il fait son œuvre sournoisement et en l'absence de prévention, quand les symptômes se manifestent, on ne peut que constater les dégâts. C'est un peu ce que Jean semble décrire. Des personnes qui sont sorties du milieu de nous, nous les avons prises pour les nôtres, et très fraternellement même nous les avons aimées. Mais, dit Jean, ça c'est très, très frappant, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Et peut-être c'est une autre façon d'exprimer ce que dit Paul. Aucun membre du corps n'a la moindre envie de s'en détacher. Alors, ne parvenant pas à gagner les responsables de l'Église à leur point de vue, les antichrists, les opposants au Christ, finissent par quitter l'Église. En quelque sorte, ils s'excommunient eux-mêmes. Malheureusement, ils ne partent pas toujours seuls. Parfois, ils sont accompagnés de personnes séduites par leur discours, tandis que d'autres, désorientés, abandonnent la foi. Peu importe, pour l'adversaire, le diviseur, le but est atteint. Et c'est là une grosse différence avec notre Maître, Jésus. Nous voulons faire des disciples qui font des disciples à notre Maître, Jésus-Christ, parce que lui est capable de sauver, d'unir, de faire croître. L'adversaire n'est capable que de nous perdre et de nous diviser. Il ne règne que dans le chaos de la division et de la haine. Alors, au fait, de quelle manière ces antichrists s'opposaient-ils au Christ à l'époque où Jean écrit ces lignes ? C'est une question qu'on va se poser, mais avant que Jean y réponde, il semble une nouvelle fois vouloir rassurer ses électeurs. Je lis au verset 20. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Rassurez-vous, dit-il, chers membres fidèles de l'Église, j'ai bien compris que vous n'êtes pas des antichrists, dans ce cas-là des antichrists, je vous considère comme faisant partie des nôtres. Vous avez reçu l'onction, l'esprit et la connaissance. L'onction, l'esprit, qui a sur vous un rôle protecteur, et la connaissance, par le moyen de la parole de Dieu, source de toute vérité. L'onction et la connaissance, ou le savoir, les deux ensemble. Et cette précaution étant prise, afin que ses lecteurs ne se remettent pas en question outre mesure, Jean va vraiment maintenant tailler dans le vif. Verset 22. Qui est menteur ? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie ? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Alors nous commençons à découvrir ici quelle est la nature de l'opposition que les antichrists mettent en œuvre, ce que Jean appelle les antichrists, les opposants au Christ, quelle est la nature de leur opposition. Et nous constatons qu'il s'agit en fait d'un point doctrinal. Et c'est donc ici notre troisième critère, un critère doctrinal, la foi en un Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, incarné en la personne de Jésus comme Messie envoyé du Père. Et donc, il semble bien qu'il y avait au sein des églises à l'époque de Jean des personnes qui s'écartaient de ce point doctrinal fondamental du christianisme et niaient ni plus ni moins la divinité de Jésus. Alors, il y a peut-être un petit écueil au niveau de l'emploi du terme « Messie ». Il ne faut évidemment pas l'entendre au sens où on l'entend dans le contexte des Actes des Apôtres, où on y voit des Juifs aux prises avec l'accueil de Jésus comme étant le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu que les prophètes avaient annoncé. Mais on voit dans les Actes que lorsque certains de ces mêmes Juifs parviennent à reconnaître Jésus comme le Messie, alors ils n'ont aucun problème pour reconnaître également sa divinité. C'est conforme à leur conception, c'est conforme à ce qui était annoncé par les prophètes. Mais ici, nous sommes en face de personnes qui font profession de foi chrétienne en Christ, qui probablement se définissent comme chrétiens et probablement pas comme juifs, et qui en tout cas se définissent comme chrétiens, en tout cas suffisamment pour passer pour des chrétiens un certain temps, mais qui ne voient pas en Jésus le Fils de Dieu incarné. Très probablement, ils ne voyaient en lui qu'un simple homme, temporairement investi par Dieu, de pouvoir divin, donc il niait l'incarnation. Pour quelles raisons? Ça, on peut supputer sur les raisons. On voit par exemple que les habitants d'Athènes de cette époque aimaient bien entendre des philosophies, des théories nouvelles. Ils aimaient bien spéculer comme ça, de manière sur la philosophie et les idées nouvelles, les faisaient un peu craquer, quoi. Peut-être que aussi que l'idée d'un Christ plus humain, moins divin, le rendrait plus proche de nous, plus compréhensif, moins intrusif. Tout simplement, c'était difficile de concilier l'idée de rassembler en une seule personne la nature humaine et le Dieu saint, que cette idée semblait inconcevable et sans doute pour bien d'autres raisons encore. C'est ce qu'on appelle une hérésie, une distorsion doctrinale tellement forte qu'elle ne permet pas à celui qui la professe de revendiquer le statut de chrétien. On sort là des fondements essentiels de la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il ne peut qu'être un homme ordinaire, donc pécheur. S'il est un pécheur, il ne peut pas être condamné à notre place, ou en tout cas s'il l'est, il ne peut pas payer pour nos péchés. Par conséquent, nous ne pouvons pas être sauvés et nous sommes encore dans nos péchés. Nous trouvons dans la première épître aux Corinthiens un développement du même ordre à propos de la résurrection. Nous avons là donc l'explication des paroles extrêmement tranchantes de l'apôtre. Et il le prend très au sérieux parce que si cette conception n'est pas vigoureusement combattue, alors l'orthodoxie de la foi chrétienne sera durablement entachée. Cependant, il ne faut pas confondre hérésie et désaccord. L'hérésie porte sur des points essentiels de notre profession de foi. Et cette profession de foi a été matérialisée, rassemblée postérieurement au temps biblique, mais néanmoins très juste, c'est venu après la Bible, dans les siècles qui ont suivi, mais ça reste néanmoins très juste, dans ce qu'on appelle le symbole des apôtres. Et bien que l'histoire de l'Église démontre malheureusement tout le contraire, tout ce qui est en dehors de cela, du symbole des apôtres, ne devrait pas être de nature à nous diviser. La plupart des hérésies de l'histoire de l'Église portent sur ces quelques points qui sont mentionnés dans le symbole des apôtres, en particulier un point beaucoup cristallisé, c'est la nature de Jésus, humaine et divine, cette cohabitation entre ces deux natures en une seule personne. Pour les uns, il n'était qu'un homme, d'autres qu'un dieu. Enfin, c'est vraiment un point de cristallisation. Beaucoup d'hérésies ont porté sur ce sujet-là. Donc des choses quand même bien centrales, hein, des choses importantes de notre foi. Tandis que les désaccords portent plutôt sur des points secondaires, comme la façon de pratiquer notre culte, la manière de vivre l'Église, ce qu'on appelle l'ecclésiologie, ou même certains points doctrinaux secondaires que l'on interprète différemment, mais qui ne remettent pas en question notre fraternité en Christ. Et donc, il n'est pas question de jeter l'anathème sur tout désaccord entre chrétiens ou entre Églises ou entre traditions d'Église. Et Jésus lui-même a enseigné de ne pas repousser ceux qui se réclament de lui et qui pour autant ne le suivraient pas, ceux qu'il appelait quand même ses petits qui croient en lui. Oui, et il a enseigné ça vraiment aux apôtres, hein, donc les garants de l'orthodoxie de la foi chrétienne. Et l'ironie veut que ce soit Jean, l'auteur de... probable, très probable, de cette épître qui avait repoussé un homme qui chassait des démons au nom de Jésus sans pour autant se tenir près de Jésus et des apôtres. Il faut faire attention à l'importance que nous donnons à nos désaccords, ne pas les monter en épingle comme s'il s'agissait d'une hérésie. Jean, comme Paul, comme Pierre, réserve un ton sévère à ce qui relève de la déviance doctrinale essentielle. Et bien sûr, comme nous l'avons vu, au manquement aux deux premiers critères, hein, le critère moral, l'obéissance, et le critère social, l'amour, pour le reste. Je paraphraserai Paul aux Philippiens, « Si vous n'êtes pas du même avis sur un point, j'ai confiance en Dieu pour vous éclairer. » Je crois que vu de là où on en est aujourd'hui, on pourrait même dire que Dieu était déjà en train de les éclairer à travers les paroles de Paul. Mais puisque nous avançons ensemble en Église, dit Paul, puisque nous sommes ensemble en Église, avançons dans la même direction. Et je vous invite à relire chez vous le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, où on retrouve cette juxtaposition de jugements extrêmement sévères à l'égard de ceux qui professent de fausses doctrines et de paroles conciliantes, comme celles que je viens de citer, envers les différences d'approche que nous pouvons constater parmi nous. Donc, après maintenant cette vigoureuse dénonciation de l'hérésie, Jean revient à un ton que je dirais plus paternel. Verset 24, « Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Ton beaucoup plus paternel, rassurant. Mais je dirais toujours quand même cet appel à rester vigilant. Vous noterez le nombre de fois que l'apôtre emploie le verbe « demeurer ». Nous sommes vraiment là au cœur du sens de l'Épître, demeurer dans la vraie foi, rester attaché à l'enseignement du Christ, tel que nous l'ont transmis les apôtres. Je note aussi que pour la deuxième fois, Jean associe dans ces deux versets, la connaissance et l'onction. Par onction, il faut bien entendu entendre l'onction de l'Esprit. Et c'est vraiment là le rôle protecteur de l'Esprit qui garde le croyant de s'égarer dans les méandres des philosophies humaines. À l'image de l'action d'une huile qui est répandue sur la tête et qui coule, comme dit un psaume, sur la barbe d'Aaron, nous pouvons compter sur l'Esprit et pas seulement sur notre connaissance, qui est forcément imparfaite, pour que les doctrines erronées glissent sur nous sans trouver de prise pour s'enraciner en nous. Et bon, je trouve assez remarquable que Jean encadre cette dénonciation de l'hérésie par cette double association de la connaissance. Vous savez, vous avez toute connaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, oui, nous sommes plutôt ici dans la figure de style et pas dans la réalité objective. Hein. Aucune connaissance humaine n'est jamais totalement complète. Mais voilà, donc double association de la connaissance et de l'onction de l'Esprit lui-même qui vous enseigne, qui est de la vérité, qui ne ment pas. Et c'est l'association de ces deux choses qui, mises ensemble, permettent aux croyants de demeurer dans la vraie foi. Et précisément, c'est cette association qui a manqué à ceux que Jean dénonce comme menteurs. Ils ont méprisé la connaissance et n'ont pas été revêtus de l'Esprit pour demeurer dans la vraie foi. L'Esprit qui les animait était un autre esprit, un esprit de querelle, un esprit de contestation. Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, leur propre ventre. C'est pourquoi, dit Jean, il est devenu manifeste qu'il n'était pas des nôtres. Après de telles paroles, de tels jugements, il est normal que les lecteurs de Jean tremblent et aient besoin d'être rassurés sur eux-mêmes comme sur leurs assemblées. Il est normal que nous, qui les lisons 20 siècles plus tard, ayons besoin d'être rassurés. 20 siècles plus tard, sommes-nous demeurés dans la vraie foi? Eh bien, 20 siècles plus tard, la source de connaissance est toujours là. Et c'est remarquable, 20 siècles plus tard, l'Esprit de Christ est toujours là. Et c'était d'ailleurs sa promesse, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes donc parfaitement équipés, pas moins que ne l'étaient les croyants des temps bibliques. Mais je vois aussi une troisième raison d'être rassuré, qui n'est pas citée expressément dans notre texte, mais qui transparaît. Le fait d'éprouver le besoin de nous interroger sur nous-mêmes, les besoins d'être confortés dans notre marche avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un trait caractéristique du croyant. On le voit avec David dans les psaumes. David était très loin d'être un modèle de droiture, tout comme nous probablement. Mais il en a tellement conscience et il en est tellement attristé. À côté de ça, il le voit autour de lui aussi. Il voit le méchant, celui qu'il appelle le méchant. Lui ne se pose aucune question de cet ordre. La perspective d'être éloigné de Dieu n'effleure à aucun moment son esprit. Pour lui seul, pour lui le méchant, seul compte le gain, qu'il soit financier, matériel, social, en termes de pouvoir, d'influence, voire de domination. il avance sur ce chemin de perdition avec une assurance que rien n'ébranle. Bien sûr que le croyant peut avoir l'assurance de son salut, mais au moins, il se pose la question. En tout cas, il se l'est posé au moins une fois. Et dans ce passage, nous voyons donc, Jean a traité une chose difficile, vraiment difficile, dénoncer une hérésie naissante au sein même de l'Église, tout en veillant à ne pas déstabiliser les vrais croyants et à ne pas susciter une atmosphère de suspicion entre eux. Ce dernier point, c'est le verset 29 qui nous le suggère. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Jean ne veut pas que, sous couvert de vigilance, parce que échaudé par le développement d'une hérésie, d'un cancer, les croyants se mettent à se soupçonner les uns les autres, à faire de leurs désaccords des sujets de division. Il désire qu'ils se reconnaissent comme frères dès lors que l'action de l'Esprit en eux se manifeste par la pratique de ce qui est juste. On pourrait se méprendre sur cette expression « pratiquer la justice ». Il faut très probablement entendre par là les conséquences de l'action de Dieu dans la vie du croyant. En quelque sorte, le fruit de l'Esprit. La mise en application des trois critères, la mise en œuvre des trois critères, l'obéissance au commandement de Christ, l'amour pour les frères et demeurer dans la foi authentique. Et donc le maître mot pour aujourd'hui, c'est demeurer. Demeurer en Christ. Demeurer dans la vérité. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand il dit ceci, il ne fait pas de la persévérance une condition pour le salut, mais la persévérance est l'un des marqueurs du salut déjà à l'œuvre dans la vie du croyant. Pour affirmer que nous désirons demeurer dans la vérité révélée en Jésus-Christ, je vous propose, merci Elliot, je vous propose de vous lever pour affirmer ensemble, haut et fort, ce en quoi nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.